Alors, bienvenue pour la conférence de Nature en Vie que nous avons intitulée La santé en transition. On vous propose donc une double conférence, l'une sur le thème de l'alimentation, comment manger de manière vivante, naturelle et saine, avec Martine Charbonnel. Et puis moi-même, je vous présenterai ensuite la question des émotions, avec donc moi Jean-Guillaume Bellier, sur la question des émotions pour savoir comment utiliser un processus naturel et spontané, l'alchimie émotionnelle, qui permet de retrouver un état intérieur calme, serein, qui permet de transformer chacune des émotions habituellement qu'on appelle négatives ou difficiles, la peur, la colère, la tristesse, en énergie positive, de joie, de calme, d'énergie de vie. Voilà, c'est ce que nous allons vous présenter parce qu'il nous semblait intéressant d'aborder ces deux sujets qui sont fondamentaux, qui n'expliquent pas l'ensemble des raisons qui font qu'on est en pleine santé, mais qui y contribuent. En quelque sorte, c'est un travail de prévention qui évite, dans bien des cas, de tomber malade. Voilà, donc nous allons commencer.
Et les graisses dénaturées aussi sont endotoxiques. Alors, là, je vais vous parler des aliments mucoformateurs. Alors, mucoformateur, comme son nom le dit, l'organisme va créer du mucus par rapport à ses aliments. Je m'explique. Les sucres, les céréales, les produits laitiers sont des aliments qui contiennent ce qu'on dit entre guillemets en naturopathie des colles. Donc, ces colles vont être drainées par les intestins, par le sang. Elles vont souvent stagner dans la lymphe. Elles vont être transportées via le sang jusqu'au foie. Et le foie, qui va être souvent en surcharge, va renvoyer via le sang toutes ces colles dans la sphère ORL. Donc, les poumons, les intestins, le foie sont des organes, et la peau aussi, sont des organes éliminateurs. C'est-à-dire que le corps va essayer, par la création de mucus, de faire sortir les toxines. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que beaucoup de maladies, ce qu'on appelle les maladies colloïdales, vont provenir de cet excès de colle. C'est-à-dire qu'il y en aura trop dans les intestins, ça va donner des problèmes au niveau intestin, des problèmes de circulation et, comme je vous ai dit, des problèmes ORL. Donc, alors, les aliments qui contiennent du mucus, nous avons les sucres. Alors les sucres, je ne vais pas trop développer, mais c'est clair, ce sont de véritables poisons cellulaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer un indice glycémique élevé, avec des problèmes au niveau du pancréas, diabète, obésité, dépression aussi. Le corps va être tellement affaibli qu'il va puiser dans son système immunitaire et du coup, il va être obligé de mobiliser ses vitamines. Donc il va y avoir souvent une baisse de vitamines après une consommation excessive de sucre. Ensuite, dans les aliments mucoformateurs, on va aussi trouver toutes les céréales et les amidons. Pourquoi? Parce que céréales, amidons font, même si ce sont des sucres lents, vont faire monter l'indice glycémique. Donc, ce sont des sucres lents, mais s'il y en a trop, ce sont des sucres qui vont épuiser les organes et surtout le foie. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu sur le problème du gluten, et notamment sur la protéine de blé qui s'appelle la gliadine, parce que cette gliadine a une influence, surtout sur les intestins déjà fragilisés, a une influence au niveau de la barrière intestinale et surtout au niveau des villosités. Parce que les villosités au niveau des intestins, si vous voulez, elles ont un rôle de barrière, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher les toxines de passer, mais en même temps, elles vont se nourrir de nos nutriments. Donc, souvent, cette gliadine, elle va souvent rendre l'intestin poreux, et du coup, toutes les toxines vont partir dans le sang. Donc, c'est des conséquences assez importantes au niveau de la santé. Et on s'est aussi rendu compte sur les 12 protéines qu'il y a dans le blé, il y en a 3 qui contiennent des opiacés, c'est-à-dire d'un genre de drogue. Et si vous voulez, donc on est en train de s'interroger sur les problèmes neurotoxiques, en fait, neurologiques. Ensuite, je face aux produits laitiers. Alors, nos amis, les produits laitiers, ne sont pas autant que ça nos amis. Il faut juste savoir que le lait est prévu pour le veau et va sécréter une hormone qui va nourrir le veau qui naît à peu près à 20 kg et qui va atteindre 400 kg dans un an à peu près. Et si vous voulez, le petit bout d'homme, lui, il n'est pas fait pour recevoir cette quantité d'hormones. Il n'est pas fait non plus pour recevoir les acides gras qui sont toxiques pour l'homme, alors que le lait maternel n'en a pas. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le lait pose aussi problème. Il fait partie des aliments mucofermateurs parce que justement, il a beaucoup de caséine et cette caséine contient beaucoup de colle. Donc, inflammation du système digestif, ORL à nouveau. On revient dans la même schématique en fait. Donc, on s'est aussi aperçu que c'est dans les pays où il y a le plus de consommation de produits laitiers, où il y a le plus d'ostéoporose. Et dans d'autres pays, où il n'y a pas de consommation, il y en a pas. Pourquoi ? Parce que les produits laitiers vont construire et notamment vont être amenés par le sang, vont amener des calcites au niveau des articulations. Donc ça va se traduire par des rhumatismes, de l'arthrose, etc. Ensuite, il y a beaucoup d'intolérance alimentaire au niveau des produits laitiers, tout simplement, c'est tout à fait normal, parce que quand on est à l'âge adulte, on n'a plus la fameuse enzyme qui s'appelle la lactose. Et pour terminer, du lait bio, c'est moindre mal, mais du lait pas bio, c'est la catastrophe parce que tous les médicaments, les vaccins, que reçoit l'animal, et surtout la pollution qu'on appelle la dioxine, qui vraiment a une influence désastreuse sur le système hormonal. Alors, maintenant, je vais passer aux aliments carnés qui contiennent les bases azotées. Alors, ces bases azotées vont poser un problème au moment de la digestion, car il va y avoir un excès d'acide urique. Il va y avoir également un surcroît de travail au niveau du foie et des reins. Là, je précise encore, c'est quand on est vraiment en excès de consommation. Donc, l'acide urique, vraiment, c'est un des principaux problèmes de la viande. Au niveau de la viande rouge, il y a aussi la carnitine. Parce que la carnitine, elle va provoquer le durcissement des artères. Vous savez, à une époque, on a dit qu'il vaut mieux manger de la viande blanche que de la viande rouge. C'est essentiellement par rapport à ça. Donc, les aliments carnés contiennent des acides gras saturés, également des alcaloïdes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est lorsque un animal a des émotions et quand il sent qu'il va être abattu, il décharge de l'adrénaline. Et c'est un poison pour le sang. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Donc j'ai donné un exemple parce que souvent, viande, on associe barbecue, viande trop cuite. Mais il faut savoir qu'un kilo de viande de bœuf cuite au grill, c'est exactement comme si on fumait 600 cigarettes. C'est la benzo-kyrène. Alors, on est dans un mouvement de transition. Il faut quand même dire que l'alimentation carnée est ultra polluante. L'élevage industriel et tous les sols qui sont consacrés à cet élevage sont encore plus polluants que tous les transports réunis. Il faut savoir que chaque fois qu'on mange 150 grammes de viande, ça équivaut à un déplacement en voiture de 220 km. Donc c'est pour vous faire le rapprochement.
Il vaut mieux, on peut rouler en 4x4 et être végétalien et prendre l'avion 3 fois par an et faire le tour de la Terre, ça devrait polluer moins. Enfin, on n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre. Hein.
Ouais. Alors, avant de parler de l'alimentation vivante, il faut parler du phénomène de la cuisson. Alors, la cuisson, au-dessus de 45 degrés, il n'y a plus d'enzymes, et au-dessus de 60, il n'y a plus de vitamines. À partir de 70 degrés, là, c'est encore pire, et plus on va élever la température, plus il va y avoir des radicaux libres, des graisses qui vont perdre leur valeur nutritionnelle et des particules toxiques qui vont se développer. Avec une destruction de l'ADN et les aliments vont être déstructurés. Alors, les aliments grillés, brûlés, évidemment, vont provoquer des goudrons, des toxiques cancérigènes, hautement cancérigènes. Donc, je rappelle encore l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Alors, bien sûr, aussi, le four à micro-ondes. Hein, le four à micro-ondes, une fois qu'il est branché, il va dégager 100 mètres aux alentours de nous, hein, des ondes électromagnétiques. Et une des particularités aussi du micro-ondes, c'est qu'il dénature et déstructure les molécules, hein, notamment les molécules d'eau et de protéines. Alors, maintenant, on passe à l'alimentation vivante, qui va être un peu plus gaie. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation vivante ? Donc, l'alimentation vivante est composée essentiellement de végétaux, mais pas seulement, mais essentiellement de végétaux. Et elle couvre à 100% les besoins nutritionnels dont notre corps a besoin. Et sans toxines, c'est ça qui est aussi très important. Alors, c'est les fruits, les légumes crus, les jeunes pousses, les plantes sauvages, les algues, les oléagineux, les aliments consommés tels que la nature nous les offre. J'ajoute graines et légumineuses germées, sont vraiment très importantes pour la santé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange vivant, quand on mange ce type d'alimentation? On est nourri en profondeur. On va faire une économie de digestion. Il faut savoir que notre système digestif va utiliser entre 50 et 70% de son énergie pour digérer les aliments. Et lorsque on cuit les aliments, ça c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, il va se passer une élévation de température. Le corps va mobiliser ses globules blancs, ce sont des gendarmes qui viennent à la rescousse en quelque sorte, et qui va chercher les enzymes dont le cuit n'a pas. Le cru, par exemple, a ses propres enzymes. Si vous mangez des aliments crus, le corps fait une économie d'énergie très conséquente. Alors, par rapport au cru, ce que j'appelle le cru, les végétaux crus, ben, c'est les carottes, les betteraves, les courgettes crues, le fenouil, etc. Donc, par rapport au cru, le cru, lui, va avoir ses propres enzymes. C'est ce que je disais. Et si certaines personnes, par exemple, ont des soucis digestifs, vont dire, bah oui, mais moi, le cru, je ne digère pas au niveau intestinal. J'ai trop mal au ventre, etc. Donc, il y a plusieurs choses à voir. C'est que déjà, l'intestin a des soucis. Donc, on va faire un rééquilibrage au niveau intestin. Ça peut être sous forme de jus de légumes. Et puis, bon, on peut compléter avec de l'argile. Mais voilà, ça, il faut voir vraiment avec un thérapeute parce que l'intestin, vous savez, est un organe essentiel dans notre organisme. Donc, voilà, la différence entre le cru et le cuit est vraiment importante. Si on veut atténuer le souci de leucocytose, donc d'élévation de température dont je vous ai parlé, eh ben, c'est bien de commencer avec un peu de cru. Ça va vraiment, il y aura déjà des enzymes qui vont être apportées à notre organisme. Donc, j'ai parlé de l'économie de digestion. Pareil, ben, il y aura moins d'efforts d'élimination, moins de toxines. Et aussi quelque chose qui est très important, donc ça, je vous invite à en faire l'expérience, c'est la satiété. Donc, les personnes qui ont envie de perdre du poids, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que ces aliments sont tellement nourrissants qu'on a besoin de moins en manger que des aliments cuits. Faites une expérience. Un jour, vous avez faim. Vous allez prendre une quantité de cru. Vous constatez jusqu'à quel point vous êtes à satiété. Le lendemain, vous mangez du cuit. Et vous allez voir. Vous allez voir qu'il faut quasiment deux fois la même quantité pour arriver à être rassasié. Voire même plus.
Voire pas être rassasié du tout.
Oui, être pas rassasié du tout. Donc, alors, quand on mange vivant, quand on est de ce style de nourriture, on a un instinct naturel qui revient. Notre corps, il va nous dire ce dont quoi il a besoin. Ah ben moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de manger des carottes. Et c'est vraiment fort, parce que quand on est là-dedans, on le ressent vraiment. On sent qu'on est dans le juste au niveau alimentaire. Donc, alors, on sent l'énergie monter, qui monte, qui monte. Quand on consomme certains types d'aliments, c'est impressionnant. Hein. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Énergie et bien-être. Et c'est une énergie qui peut durer tout l'après-midi, par exemple.
Mais c'est pas de l'excitation. Hein.
Ouais, exactement.
C'est de l'énergie douce et puissante.
Exactement, tout à fait. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans les aliments vivants? Eh bien, on trouve toutes les vitamines dont le corps a besoin. La seule qui manque, c'est la vitamine B12. On va la trouver dans les algues et les graines germées. Je vous parle un petit peu de ces deux aliments tout à l'heure. On trouve des enzymes, des fibres, les antioxydants, hein, essentiellement les caroténoïdes hein, dans les légumes qui ont des couleurs rouges, orangées. On le trouve aussi dans la spiruline, certaines algues. On va trouver énormément de minéraux et oligo-éléments. Alors, le fameux calcium, on dit, ben voilà, si on ne prend pas du lait, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, on peut prendre des algues, on peut prendre du persil, des épinards, du chou qui en contient énormément, du brocoli, de la laitue, des figues, des amandes qui sont très riches, des olives, etc. Le phosphore, il y en a quasiment dans tous les fruits, légumes et les légumes secs. Le fer, les algues en sont très riches. Le persil à nouveau, les légumineuses, les épinards, l'amarante, certaines céréales. Il y a aussi la quinoa qui en contient. Le magnésium, les algues, légumes verts, feuilles vertes, noix, noisettes, noix de cajou. Le zinc, on va en trouver dans les graines de courge. Les noix du Brésil. Alors, les noix du Brésil sont un aliment très intéressant car elles contiennent aussi du sélénium. Et elles sont très alcalines comme l'amande. Alors, le zinc, on en trouve dans beaucoup de légumes et dans certaines céréales complètes. Alors, les fameux acides gras, on en trouve en quantité abondante dans les noix. Alors, actuellement, les noix ont aussi l'avantage d'avoir beaucoup d'oméga-3. Et elles sont riches en protéines en plus. Les amandes aussi, les graines oléagineuses, genre graines de courge, graines de lin, sésame, tournesol, dans les huiles fraîches. Alors, moi, je vous ai essentiellement cité les oméga-3 parce que les oméga-6, on les trouve quasiment dans presque toutes les autres huiles. Et les oméga-3, elles sont vraiment utilisées à titre thérapeutique hein, parce qu'elles sont chères, hein, voilà, donc. Il y a le lin, colza, chanvre, noix. Et on en trouve aussi dans la roquette, la mâche et le pourpier. Alors, l'huile d'olive est aussi intéressante par rapport à sa richesse hein, en oméga 9. Alors, les protéines.
Il y a des chaises par là-bas.
Le grand sujet aussi, c'est les protéines. Où va-t-on trouver les protéines? Eh bien, en grande quantité dans les algues. Donc c'est sûr qu'on n'est pas sur les côtes, on n'a pas d'algues. On peut quand même les trouver dans des algues déshydratées ou bien peut-être les commander fraîches, je pense que ça existe aussi. Sinon, on peut consommer de la spiruline qui est un aliment par excellence qui contient entre 50 et 60% de protéines. On va trouver, donc, comme je vous disais, dans les noix, 17%, dans l'amarante qui est une graine, 14%, dans la quinoa, les graines de sésame, de courge, de tournesol. Ce sont des graines de tournesol très intéressantes quand elle est germée aussi, hein. Entre 10 et 20%. Alors, les graines germées, évidemment, sont des sources extrêmement intéressantes. Et alors, dans certaines plantes sauvages, avec l'ortie. L'ortie regorge de protéines.
Et de vitamine C, c'est extraordinaire.
Oui. Alors là, je vous ai parlé d'un concept d'une diététique qualitative. Cette diététique, on ne va pas la calculer sur le nombre de glucides, de protéines, etc., comme on fait normalement, mais là, sur le degré de vitalité et de valeur nutritionnelle que notre corps va recevoir. Alors, il y a un classement en 4 parties. Il va y avoir les aliments biogéniques. ce sont des aliments qui donnent la vie. Les graines germées, les plantes sauvages, les algues, la gelée royale, le pollen, le jus d'herbe de blé, qui vont amener une énorme vitalité. Quand je dis énorme vitalité, ça veut dire que, par exemple, vous prenez du jus d'herbe de blé,
ou d'ortie,
je l'ai oublié, on a dans les une demi-heure, heure qui suit, on a un regain d'énergie. C'est impressionnant. Les aliments bioactifs, ce sont des aliments qui maintiennent la vie. Les fruits, légumes, oléagineux crus et frais, très frais. Donc, tous ces deux types d'aliments constituent les aliments vivants. Ensuite, nous avons les aliments biostatiques. C'est des aliments qui ralentissent la vie. Alors, ce sont les aliments cuits, dont je vous ai parlé, et même crus, s'ils sont stockés dans le bas du frigidaire depuis des jours, déjà ils perdent leur vitalité. Alors, certains aliments d'origine animale, de culture biologique, bien sûr, avec des animaux élevés en plein air et qui ne sont pas en souffrance aussi, vont rentrer dans cette catégorie. Donc, il y a les œufs qui ont une valeur nutritive intéressante, à condition de ne pas trop les cuire, parce qu'ils ont quand même les 12 acides aminés. Et puis, vous avez aussi les animaux qui sont élevés en plein air. Ensuite, vous avez les aliments biocidiques, ce sont ceux qui tuent la vie, donc cela c'est la grande croix. Produits chimiques dont on a parlé, et les aliments d'origine animale issus de l'élevage industriel. Alors, évidemment, plus on va se rapprocher de là, mieux notre santé sera. Mais c'est vrai que, vu notre culture, vu le contexte géographique, et puis le climat, on accepte 25% pour dire que notre corps est en bonne santé. Si déjà on est là, c'est déjà vraiment très bien. Alors, 3 à 4 semaines d'aliments biogéniques et bioactifs, le corps va mettre en place un système d'élimination, de guérison et de régénération. Alors bien sûr, Jean-Guillaume en a parlé, être en bonne santé, c'est aussi bouger, c'est aussi, moi j'ajouterais, aller dehors, profiter de la lumière solaire, de l'énergie du dehors.
Oui, la vitamine D est une nécessité.
Voilà.
On est un peu souvent en manque de vitamine D.
Voilà.
Surtout dans nos régions.
Ouais. Donc le soleil...
Et on ne la fabrique pas, on la fabrique avec le soleil.
Ouais. Tout à fait, la vitamine D3, la fabrique avec le soleil. Et donc, c'est vrai que c'est important, dès qu'il y a du soleil, de se mettre au soleil. Alors, je vais vous parler de ces aliments qui vraiment nourrissent la vie et qui donnent une énergie incroyable. Donc, ce sont les graines germées. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la germination, il y a des modifications qui se passent au niveau de la graine. Les protéines vont être scindées en acides aminés et le fameux amidon va être scindé en maltose. Ensuite, on a constaté une augmentation absolument incroyable, par exemple, au niveau des lentilles germées. Le taux de vitamine C augmente de 300% et le taux de vitamine A augmente de 500%. Le blé, une fois germé, contient 700 fois plus de magnésium, 500 fois plus de calcium et 12 fois plus de phosphore. Donc, ce que j'ai noté, c'est que ce qui fait la richesse de ces graines germées, c'est qu'elles sont encore en croissance et vivantes au moment où on les mange. Donc, c'est vraiment un aliment très complet. Donc, elles sont riches, enfin, en tout, quoi, on va dire. Vitamines, oligo-éléments, acides aminés, minéraux, phytonutriments, phytohormones, fibres, antioxydantes, alcalinisantes, index glycémique bas. Elles sont rassasiantes. Donc, elles sont faciles d'utilisation et sont peu coûteuses. Et c'est le moyen idéal pour faire cesser la faim dans le monde. Bon, il faut avoir de l'eau potable, évidemment, parce que les grains de tournesol, par exemple, qui sont extrêmement riches au niveau protéines, vous les mettez dans un bocal d'eau le soir. Le lendemain matin, vous les rincez, vous pouvez les manger. Et elles sont prêtes. Voilà. Alors, bon, je vais aussi parler un petit peu rapidement aussi des algues.
Oui, c'est bien. Hein.
Bien sûr, j'ai nommé la spiruline parce que c'est ça fait aussi partie des aliments qui pourraient aussi sauver de nombreux enfants qui sont enfants et personnes qui sont dans la famine, parce que c'est aussi un aliment complet qui est au niveau de la vitalité qui est extrêmement intéressant, avec des protéines de grande qualité et assimilables. Alors, pareil, elles sont très concentrées en fer, calcium, magnésium, phosphore. Elles ont la fameuse vitamine B12 qu'il y a dans la viande et puis qu'on trouve là et dans les grains germés. Grâce à la chlorophylle, il y a l'oxydation effrénée, donc il y a moins de radicaux libres. Les algues aussi, elles régulent le pH et elles sont très alcalines. Donc il y a la spiruline qui est très intéressante. Il y a aussi la chlorella, elle va plutôt intervenir pour détoxiquer les métaux lourds. La clamate, elle n'est pas encore très connue, mais on s'intéresse de plus en plus parce qu'elle a aussi énormément de propriétés. Elle est aussi elle est anti-inflammatoire. Donc, il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle les super aliments. Les plantes sauvages aussi sont d'une grande richesse. On a parlé de l'ortie, il y en a plein d'autres. Les feuilles vertes, les pousses vertes, le jus d'herbe de blé dont je vous ai parlé, les noix, toute la catégorie des noix, donc les amandes, etc. Les os. Les os, c'est-à-dire les oignons, ciboulettes, tout ça, sont aussi des aliments très très riches. Je vous donne juste avant de passer la parole à Jean-Guillaume, juste un exemple. Par exemple, je suis obligée de le lire parce que je ne me rappelle pas par cœur, la spiruline, par exemple, elle va contenir, si vous prenez 3 cuillères à soupe de spiruline, elle va contenir autant d'acides aminés que 500 g de viande de bœuf. Autant de calcium que 3 verres de lait. Autant de fer que 3 bols d'épinards. Autant de bêta-carotène que 18 carottes. Autant de vitamine B12 que 500 g de steak. Et autant de vitamine E que 3 cuillères à soupe de germes de blé.
Voilà. Merci, bravo.
Mais j'en ai fini, je te laisse la place. Bon, je m'excuse pour le débit, mais c'est parce que...
Pardon ?
Est-ce qu'il y a des questions ?
On vous propose les questions après, ouais. Parce que comme ça, je peux aussi faire mon exposé. On garde toutes les questions.
Voilà, parce que c'est très concentré pour peu de temps. En fait.
Parce qu'on a vraiment décidé de le faire ensemble, parce que ça nous semblait intéressant d'avoir une vision plus globale de la santé. Donc là, vous avez un exposé remarquable et assez exhaustif sur les questions alimentaires. Alors évidemment, tu ne vas pas aller dans tous les détails, parce qu'il nous faudrait une journée entière, voire suivre une de tes formations. Parce que tu as donné les grandes lignes en quelque sorte, sans aller dans les détails. Donc, si vous avez des questions, c'est normal. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, moi, je vous propose d'aborder maintenant le deuxième aspect, qui est la question émotionnelle. Et la question qu'on se pose, l'idée, c'est que souvent nos émotions nous dérangent. En gros, on résume les émotions en 5 types d'émotions, la joie, l'amour, et puis on a 3 émotions qu'on n'aime pas trop, la peur, la colère et la tristesse. Alors, il y en a d'autres, mais ça, c'est les grandes émotions qu'on connaît. Et les 3 que j'ai citées, peur, colère, tristesse, a priori, dans nos sociétés, on ne les aime pas trop. On ne sait pas trop quoi en faire, donc on essaie de les gérer un peu de manière administrative. On ne sait pas quoi en faire. Des fois, elles nous dépassent, on est complètement affolé, on ne sait plus quoi faire, ou on explose de colère. Bref, c'est une question qui est fondamentale, à mon sens, pour moi en tout cas. Il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème. Moi, ça l'a été, ça ne l'est plus. Disons que mes émotions sont plus le même rapport à moi-même, à mes émotions, dans la mesure où j'ai compris comment je fonctionnais psychiquement. Parce que pour moi, la question des émotions, c'est comprendre ce qui se passe par rapport aux émotions et sortir l'idée que c'est quelque chose de dangereux. Donc, ce dont je vais vous parler, il s'agit d'un processus naturel, d'une transformation de l'émotion, qui s'appelle l'alchimie émotionnelle. L'alchimie, comme on prend un métal, un vil métal, le plomb, et on le transforme en or. Donc, je vais vous expliquer ce processus-là, qui est en nous, en remontant à l'origine des émotions. Pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je suis, il y a une situation donnée, puis je suis extrêmement en colère ou extrêmement triste, Et pourquoi Martine ne va pas réagir de la même manière? Pourquoi moi je vais réagir d'une autre manière? Alors évidemment, il y a un lien peut-être avec, enfin certains avec l'alimentation, mais pas que. Donc la première chose pour comprendre son psychisme, c'est se demander d'où viennent les émotions. Si, moi, alors je me prends moi, mais je pourrais prendre n'importe qui d'autre. Si une personne réagit de manière très émotionnelle face à une situation, c'est pas qu'elle est, elle a un mauvais câblage intérieur ou qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. C'est que dans son passé, dans son histoire, quelque chose a fait que quand elle est face à tel type de situation, elle réagit, elle surréagit, on va dire, ou elle réagit d'une manière extrêmement forte, alors que l'autre, pas du tout. C'est en fait, la question fondamentale, la première idée hein, par rapport aux émotions, c'est de se dire que quand on a une émotion qui est trop forte, qui est disproportionnée par rapport à la réalité, c'est pas de se dire que c'est mal ou c'est une émotion, elle est là, mais se rappeler qu'elle vient du passé. Elle vient de quelque chose qu'on peut avoir oublié, qui vient de notre histoire, de notre enfance, voire de la vie intra-utérine, voire des premiers jours de notre vie. Mais évidemment, on s'en rappelle pas, on nous l'a peut-être dit. Mais tout ce programme-là, tout ce qui s'est passé là, crée une sorte de programme en nous, une inscription dans notre corps, dans notre cerveau, ce qui fait que quand on rencontre une situation qui nous le rappelle, la situation, on a une émotion extrêmement forte et on a tendance à surréagir. C'est pour ça que c'est vraiment une clé fondamentale. J'insiste là-dessus, l'émotion ne vient pas par hasard comme ça, c'est pour ça qu'on est différent, ça vient vraiment de notre passé. D'où l'intérêt souvent d'aller chercher et essayer de trouver d'où ça vient, parce que ça peut enlever le poids de cette émotion, de ces réactions qui sont inappropriées. Parce que si, évidemment, face à... C'est l'exemple typique des phobies. Les gens qui ont peur des chiens, par exemple, sont face à des émotions qui viennent de leur passé. Mais non, soit ils en ont encore le souvenir, soit ils l'ont oublié. J'ai accompagné comme ça un jeune homme qui avait une peur panique des chiens, donc un grand gaillard de 1m80, et quand il voyait un chien, il changeait de trottoir. Mais même des petits chiens, des tout petits, hein, voilà. Donc il y avait quelque chose de complètement illogique, et ça venait visiblement de son enfance. Il avait un souvenir très net d'un chien qu'il avait eu à la maison et qu'il avait embêté pendant plusieurs mois. Donc il avait associé l'idée du chien à quelque chose de désagréable. Voilà, donc ça, c'est cette première idée, c'est bien comprendre que l'émotion n'est pas une fatalité, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque chose en nous et de profond. Je reprends juste une note pour suivre le fil de ce que j'ai à vous dire, parce que l'idée, c'est que vous ayez quand même la possibilité de poser des questions. Oui, donc c'est une réponse qui est finalement assez inconsciente et qui nous coupe, dans la plupart des cas, de la pensée. C'est-à-dire que quand je suis pris par la colère, en fait, j'arrête de penser de manière intelligente. Je me mets à penser de manière émotionnelle. Voire je commence à dire n'importe quoi, voire je fais n'importe quoi. Dans les pires des cas, on voit les gens qui se mettent à taper, à tuer. Et ce sont souvent parce qu'ils n'ont plus leur conscience. Ils sont déconnectés de leur intelligence, de leur pensée rationnelle, de leur intuition, et se mettent à faire n'importe quoi. Donc, l'émotion dont on ne connaît pas l'origine et qui envahit le champ de notre conscience est gênante, hein, est grave, hein, c'est pas quelque chose d'anodin, parce qu'on peut faire vraiment n'importe quoi. Donc, cette réponse est exagérée. Pour l'instant, nos sociétés ont trouvé deux solutions. La première solution, c'est de refouler l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la sentir, on va essayer de la gérer, on va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais pour plus avoir d'émotion. On n'en veut plus, donc on va les refouler, on va avoir une situation désagréable, on va serrer les dents, vous voyez, tous les mécanismes du refoulement, on va faire comme si de rien n'était, puis on va devenir tout rouge, parce que le corps, lui, il n'est pas bien avec ça, mais bon, on refoule au maximum, et on refoule tant qu'on peut. Alors au début, quand on est jeune, ça va à peu près, mais à un moment donné, ces charges émotionnelles refoulées posent de réels problèmes. Et c'est là où on peut faire le lien avec les questions de maladie. Parce qu'à force de refouler, le corps n'en peut plus, ça crée des tensions, ça crée des douleurs, voire il suffit d'un événement supplémentaire pour déclencher des maladies ou nous mettre en état de dépression ou de burn-out. Donc cette question du refoulement est une question importante parce que les sociétés n'ont pas toutes les mêmes réponses. Par exemple, la deuxième version, hein, c'est le défoulement. C'est l'idée qu'on peut vivre son émotion et dire ce qu'on veut, crier, hurler, voire taper. Et par exemple, dans nos sociétés, la peur, on ne peut pas l'exprimer. Alors les enfants, eux, vivent leurs émotions. Hein. Ils n'ont pas de soucis. Ils les vivent, justement, ils les défoulent. Ils les vivent en permanence sans se soucier de savoir s'ils ont le droit de les avoir ou pas. Et il y a des sociétés où le défoulement, par exemple, est autorisé sur la peur, pas chez nous. Donc par exemple, chez nous, quand on a peur, on refoule. Alors, surtout chez les hommes, nous, on nous dit, alors les hommes, on n'a par exemple pas le droit d'avoir peur et pas le droit d'être triste. C'est comme ça qu'on a été éduqués souvent. Mesdames, vous, on vous invite plutôt à ne pas être en colère. Mais vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer. Voilà. Et c'est des habitudes culturelles. Il y a des sociétés où on a le droit d'avoir peur. Et les gens vont crier, vont manifester leur peur. Mais chez nous, on a culturellement pris l'habitude de refouler ces trois types d'émotions. Rarement de les défouler, c'est pas trop dans nos habitudes. Alors je pense qu'il y a des défoulements collectifs autorisés. Par exemple, on peut aller à un match de foot et crier très fort parce que soit notre équipe a gagné, donc on est content, c'est la joie, soit crier notre détresse et taper tout le monde, c'est ce que font plutôt les hooligans. Hein, vous voyez, c'est une vision un peu caricaturale ce que je dis, mais globalement, c'est quand même ce qui se passe par rapport aux émotions. Voilà, alors du coup, que faire? Est-ce qu'il y a une troisième voie? Ben oui, bonne nouvelle, il y a une troisième voie possible qui n'est ni le défoulement ni le refoulement. C'est une voie naturelle, une voie que les animaux connaissent, qui existe, qu'on connaît, mais auquel on n'a pas forcément prêté attention. Et là, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que dans cette voie naturelle, il ne s'agit pas de refouler, pas de défouler, mais d'être conscient de ce qui se passe en nous. Alors je m'arrête et je fais une métaphore, enfin je donne un exemple plutôt. C'est l'exemple de la gazelle. La brave gazelle dans la savane se retrouve pourchassée par une lionne parce que les lions ne chassent pas. Hein. Ils ont délégué ça aux femelles. Donc le lion reste tranquille. La lionne chasse et poursuit une gazelle. Et manque de chance pour la lionne, la gazelle s'échappe. Et tant mieux pour la gazelle, elle continue à courir et se trouve dans un coin tranquille. Et bien ce que fait la gazelle, c'est que pendant quelques minutes, elle va trembler. Elle va se laisser trembler pour évacuer toute l'information de peur en réalité. Elle a eu extrêmement peur, la peur lui a dit qu'il fallait faire quelque chose, puisque c'est le but de l'émotion, ça doit nous indiquer qu'on doit faire quelque chose. Là en l'occurrence c'était fuir. Et donc elle est pleine d'adrénaline et elle se met à trembler pendant quelques minutes, elle sur elle-même. Voilà. Donc la gazelle se met à trembler et évacue le surplus d'adrénaline qu'elle avait à ce moment-là. Ce qui fait qu'en fait, elle est parfaitement opérationnelle après pour à nouveau courir en cas de danger. Mais voyez bien que nous, humains, on ne fait pas ça. Quand on a une grande peur, on sent, je ne sais pas si vous est sûrement arrivé, d'avoir des moments où vous avez une grande frayeur, on sent l'adrénaline, on sent les picotements dans les mains, on sent les effets que ça a, puisque ça, l'émotion qu'on appelle la peur a pour but de nous faire réagir. Chaque émotion a un but, hein, j'y reviendrai. Et du coup, nous, on ne fait pas ça. On va rester crispé avec notre émotion, notre peur, notre colère, notre tristesse, et du coup, on stocke des tensions, des crispations. Donc là, la proposition, c'est de laisser faire ce processus naturel, mais de manière consciente. Et tout l'exercice est subtil, parce que personne ne nous l'a appris, on sait le faire naturellement, et depuis que je propose et que j'exerce ce métier d'écologue intérieur et que j'accompagne des personnes dans leurs émotions, il y a des gens qui m'ont dit l'avoir déjà vécu spontanément, puisque c'est naturel. Donc il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait. Donc peut-être que vous allez dire, ah oui, mais j'ai déjà vécu ça, effectivement. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à utiliser une part de soi qui est la conscience, une conscience témoin, une conscience observatrice, ce que n'ont pas forcément les animaux. Nous, on est capable d'observer ce qui se passe en nous, on est capable d'avoir conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Et en même temps, là pour cette fois-là, il va falloir laisser le corps faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire laisser ses émotions refoulées, ou les émotions qu'on vit si ça se passe sur le moment, nous traverser, laisser le corps bouger à la manière de la gazelle, parce qu'il peut y avoir des vibrations, des tremblements. Il peut se passer plein de choses, c'est variable selon l'émotion, selon le moment, selon l'intensité de l'émotion. Mais simplement, c'est être conscient de ce qui se passe et le laisser vivre en nous. Donc ça, c'est... Voilà, je crois que là, je pourrais dire que j'ai terminé ce que j'ai à vous dire, parce que le processus naturel, il est aussi simple que ça. Donc voilà, on pourrait passer aux questions, je vais quand même pas aller plus loin. Mais en gros, c'est ça, l'alchimie émotionnelle, c'est simplement un processus naturel, spontané, de laisser faire ce qui se passe dans le corps et de le laisser vivre ce dont il a besoin, mais en conscience. Alors c'est très intéressant parce que ça va répondre à plein de situations de votre vie quotidienne. Il y a plein de personnes qui font l'insomnie. S'il n'y en a pas ici, vous avez beaucoup de chance, mais normalement, habituellement, il y a toujours au moins une ou deux personnes, voire plus, qui connaissent ce processus, enfin cette difficulté-là de l'insomnie. Alors, il y a des insomniaques de l'endormissement, ils n'arrivent pas à s'endormir. Alors là, on se met à avoir des pensées qui tournent, hein, qui font oui de la tête. Voilà, on tourne, ça, on pense à fond, mais on pense, on n'arrive plus à arrêter le fil des pensées. Puis plus on pense, plus c'est désagréable, parce qu'on pense à des choses qui ne sont pas agréables. On essaie de les résoudre, on a un cerveau, il sert à ça, puis on n'arrive pas à les résoudre, alors on tourne avec. Et puis, on ne s'endort pas au final, puis on ne s'endort pas, donc on a peur parce qu'on sait qu'on va être fatigué le lendemain. Donc ça suralimente, c'est une espèce de cercle vicieux de l'émotion. Et alors, on n'en veut plus, puis moins on en veut, plus ça, ça devient de plus en plus fort, etc. Alors, il y a les insomniaques de l'endormissement, il y a ceux qui se réveillent en pleine nuit, ceux plutôt vers le matin. Voilà, en gros, c'est les trois moments où on peut être sujet aux insomnies. Alors, la bonne nouvelle, on peut changer de façon de faire. C'est-à-dire que quand vous avez, si ça vous arrive d'avoir des insomnies, dites-vous que c'est une chance et vous êtes en train d'essayer de réfléchir et de trouver une solution à un problème important de votre vie. Vous avez mis de côté. Alors, plus le problème est gros, plus l'insomnie, j'ai envie de dire, elle est conséquente. Parce que si c'est des problèmes existentiels et c'est des choix de vie conséquents, ça pose ça fait des très grosses insomnies qui vont revenir régulièrement. Moi, je suis plutôt insomniaque du matin, par exemple. Je vais plutôt me réveiller, je ne sais pas, entre 5h ou 6h. Et c'est des occasions maintenant qui me servent à réfléchir. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que j'utilise ma conscience témoin, donc je tourne mon attention vers l'intérieur et je laisse l'émotion qui est là. Alors, souvent, je peux sentir, bah oui, tiens, j'ai peur. Et je laisse mon corps, surtout que c'est facile, je suis allongé, je suis détendu, et je laisse mon corps vivre sa peur. Alors, ça fait des trucs bizarres, ça peut être des tremblements, ça peut être très fugace, très rapide. Et puis, en quelques instants, l'émotion est transformée, ça dure vraiment quelques instants, ça peut être 2-3 secondes à 2 minutes. L'émotion est transformée et je sens que ma pensée redevient claire. Et puis je suis détendu. Alors quand c'est des très grosses émotions qui datent de très longtemps, il me faut un peu plus, ça se fait par étapes. Je fais une première partie, puis je recommence encore après, etc. C'est comme si je déverrouillais toutes les émotions qui avaient été refoulées les unes après les autres depuis très longtemps. Alors, je vois de plus en plus de personnes que je suis le faire et me relater les effets que ça a sur leur vie. Alors, c'est un coup à prendre parce qu'on n'a pas forcément l'habitude au début de le faire. Ce qu'on ne sait pas faire, à moins que vous l'ayez déjà rencontré ailleurs, mais souvent, pour l'instant, personne ne me dit « Oh, ben, je connaissais ». La plupart du temps, c'est une nouveauté. Voilà. Donc, il s'agit d'accueillir l'émotion en soi et de lâcher prise. C'est un véritable lâcher prise. C'est-à-dire qu'on lâche prise sur ce qui se passe, on accueille, on laisse faire. Et souvent, on ne veut pas sentir les émotions. Et du coup, les questions d'insomnie sont réglées. Alors, il y a plusieurs moments favorables à l'accueil des émotions. Il y a la nuit, donc, au départ de l'endormissement, au milieu de la nuit, le matin. Mais on peut aussi avoir des émotions simplement quand on s'arrête et qu'on s'allonge à la sieste. Et puis, il y a des moments un peu inattendus, c'est quand on fait l'amour, par exemple, parce que c'est souvent un endroit où on lâche prise, donc il y a des émotions qui peuvent remonter. Voilà en gros les moments où j'ai repéré qu'on pouvait avoir des émotions, ou quand on va discuter avec une amie ou un thérapeute qui nous aide à prendre conscience, et là on s'autorise à vivre des émotions. On a aussi d'autres moments où on est pris par des émotions, on est en colère, etc. Alors là, c'est plus délicat. C'est-à-dire qu'on peut laisser le processus naturel se faire la nuit, il n'y a personne, on ne dérange personne, on est allongé, c'est tranquille, mais si on est en situation et qu'on est en train de discuter avec quelqu'un qui nous énerve profondément, là, c'est plus compliqué. Donc, dans ces cas-là, il s'agit d'avoir conscience de l'émotion et ne pas refuser de l'avoir. C'est un exercice intellectuel et très intéressant. C'est accepter qu'on a une émotion, ne pas sentir si on la refoule ou pas, et l'accepter. Alors, évidemment, on ne peut pas se mettre à trembler devant une personne, surtout si on est, je ne sais pas, vous me voyez me mettre à trembler en train de faire la conférence. Par exemple, je peux sentir là que j'ai un fond de peur, mais ce fond de peur ne va pas me déranger pour parler. Il va simplement activer peut-être plus de vivacité pour moi, il va me permettre d'être beaucoup plus clair. Voilà. On peut quand même faire. Alors si c'est trop fort, des fois j'ai observé qu'il valait mieux sortir, dire écoutez là c'est trop, je peux pas, et puis aller s'asseoir dans un coin, s'allonger quelques instants, et laisser le processus se faire, et revenir ensuite dans la conversation. Et là ça marche, on est beaucoup plus clair. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce processus naturel d'alchimie émotionnelle, il est très logique, c'est-à-dire que chaque émotion donne quelque chose une fois transformée. La peur, par exemple, va donner, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faudrait fuir ou qu'il faudrait réagir. En tout cas, la peur nous indique de faire quelque chose et elle va donner de la sagesse. C'est-à-dire que derrière, les pensées qu'on va avoir vont être sages, vont être transformées. On va mieux réfléchir à ce qu'on a à faire. La colère est une émotion en fait réellement intéressante parce qu'une fois transformée, elle donne de la puissance, de l'énergie de vie. Mais on le sent physiquement, c'est immédiat. Et on se sent mieux, on a envie de faire, on a envie de réagir. Parce que la colère, c'est un indicateur de combat. On est là, ça nous indique, bon là, vas-y, attaque. Passe. Mais alors là, on ne le fait pas. Ça se passe au niveau de la pensée, non plus de vouloir casser la gueule à quelqu'un. Et puis, il me manquait quoi ? La peur, la tristesse va se transformer en joie. Ou en une sorte de bien-être, quelque chose de beaucoup plus quiétude, quelque chose de beaucoup plus calme. Donc du coup, vous comprenez ce que je disais au début. Chaque émotion n'est pas quelque chose de dangereux. C'est notre matière première à nous transformer, parce que c'est absolument génial. Toutes ces émotions-là sont nos ressources. Et au lieu de les voir comme quelque chose de dangereux, à partir du moment où le processus se met en place, on voit ces émotions comme une guérison de tout ce qui est non réglé chez soi et comme la possibilité de réellement se transformer. Et là, je fais le lien vraiment avec l'idée de la transition. C'est-à-dire que la transition, elle est à l'œuvre. On a vu qu'il y avait tout un ensemble d'aliments qui étaient intoxicants et on veut tendre vers des aliments moins intoxicants. C'est ce vers quoi on veut aller. Et bien avec les émotions, c'est pareil. Au lieu de lutter contre ces émotions et de s'obliger et de se contraindre, il s'agit d'accueillir ces émotions d'une nouvelle manière et d'aller vers autre chose. Un peu à l'image de la transition, où il ne s'agit pas de s'autodétruire ou de fuir la réalité d'un état planétaire absolument catastrophique. Il s'agit de réagir, de réfléchir et d'agir. Et bien là, en transmutant les émotions, chacun d'entre vous peut, à partir du moment où il laisse le processus se faire, peut transformer sa vie réellement. Alors au début, ça se fait par étapes, ça peut être des choses assez superficielles mais gênantes, donc ça donne du mieux-être. Voilà, je vous parlais du garçon qui avait sa phobie des chiens, donc lui ça a pris, je l'ai reçu une heure en tout, hein. Donc il y a eu 2 minutes de transformation une première fois. On est parti se promener pour chercher des chiens, c'est des techniques de psy comportementale, donc aller vérifier avec un chien, donc on a trouvé des chiens. Alors déjà il changeait pas de trottoir, ça lui faisait bizarre, mais il a pu les toucher. Puis il sentait que c'était encore fort. Alors on est retourné, il s'est allongé à nouveau, puis il a à nouveau tremblé 2 minutes. Alors lui, il tremblait très fort. Hein. C'était vraiment les manifestations physiques allongées étaient très impressionnantes. C'est-à-dire que du moment où il a tourné sa conscience vers l'intérieur, il avait les jambes qui tremblaient. Alors, c'est assez spectaculaire, mais il avait cette espèce de faculté vraiment d'être conscient et de laisser son corps faire ce qu'il avait à faire. C'était une très bonne gazelle. Hein. Voilà. Et puis on est retourné cette fois-ci au salon de toilettage. Parce que là, j'avais envie d'avoir... Enfin, c'était vraiment confronté davantage à un chien. Et là, il y avait un bichon maltais sur la table de la toiletteuse. Et là il sentait qu'il avait peur, mais c'était OK d'aller toucher. Vous voyez, un bichon maltais, ce que ça représente, hein, c'est pas très bien, attaché en plus. Et là, il a pu dépasser sa peur, c'est-à-dire l'accepter, sentir qu'il avait peur, mais décider. C'est lui qui a décidé. Il pouvait décider de sa vie, c'est-à-dire toucher le chien, le regarder. En fait, il n'avait jamais regardé un chien de près, il ne pouvait plus. Enfin, il l'avait fait petit, mais... Donc, il a à nouveau observé ce que c'était qu'un chien, comment c'était. Et depuis, c'est réglé. C'est-à-dire qu'une fois que le problème a été transmuté, c'est complètement réglé, ça ne revient pas. Donc c'est à la fois un processus naturel qui est absolument incroyable, qui paraît merveilleux, mais qui demande, comment dire, l'humilité de le faire, et qui demande une pratique et un entraînement, parce qu'on peut y arriver seul sans aucun problème, mais parfois il y a des charges émotionnelles qui viennent d'un passé oublié, et ça demande un peu plus de temps. Alors, je reprends mes notes. Voilà, donc, en fait, cette voie-là, hein, cette voie de l'alchimie émotionnelle est une nouvelle possibilité pour l'humanité, non plus de refouler ou de défouler, mais de passer à autre chose. C'est-à-dire passer à ce qu'on cherche depuis longtemps, c'est une pensée complète. C'est-à-dire que pas une pensée qui est contrainte par les émotions. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais souvent, nos pensées sont empreintes de nos émotions, de nos peurs, de nos colères. Alors comment on a des émotions, on les projette sur l'extérieur, c'est la faute aux autres, c'est la faute. On croit que c'est les autres. Mais en réalité, c'est souvent nous-mêmes qui avons nos émotions non résolues, notre passé non guéri de notre enfance, qui projetons ça sur l'extérieur. Donc c'est une voie pour moi fondamentale de ce travail intérieur dont on parle souvent, qui permet d'aller vers cette transformation. Alors, juste encore, enfin, j'ai presque terminé, mais je voudrais ajouter que j'ai observé beaucoup dans ma pratique psychothérapeutique quand je me formais, il y avait des choses bizarres quand on travaillait ensemble en formation ou avec des personnes, avec des clients. Il y avait souvent des transformations en thérapie, les gens allaient mieux. Et c'est souvent quand ils arrivaient à toucher à l'émotion, et bien de même, l'émotion se transformait, puisque c'est un processus naturel. Et souvent, ça avait lieu. Et quand je travaillais en psychothérapie corporelle, c'est un outil que j'utilise toujours, c'est le fait de travailler sur les tensions corporelles, on réveille souvent les émotions. Parce que le corps et le psychisme, c'est la même chose. Donc une émotion qui a été refoulée à un moment donné, elle a une inscription corporelle. Et souvent, en recontactant, en touchant le corps, on va réveiller une mémoire. Et on ne sait pas quoi en faire. Souvent, on peut pleurer. Bon, ça fait du bien, mais ça ne résout pas le problème, puisque le corps a besoin de la transformer. Il a besoin d'aller au bout du processus. Voilà. Donc ça, c'était pour moi une observation. Et maintenant, dans l'accompagnement que je propose, j'invite vraiment les gens à l'autonomie. Et c'est pour ça que ça a aussi du sens dans le cadre de la transition, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée d'autonomie psychique. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'aide thérapeutique et l'utiliser. Mais l'idée, c'est quand même qu'on soit autonome. Comme on cherche à l'être autonome dans la transition avec une idée d'autonomie et de local, eh bien, l'intérêt pour moi, c'est que les individus ne deviennent plus dépendants d'une autorité extérieure ou d'une aide extérieure. On peut en avoir besoin pendant un certain temps de sa vie, mais si on est capable soi-même d'être autonome, on change vraiment notre société aussi en profondeur. Est-ce qu'on devient des individus capables d'accompagner spontanément ceux qu'on a besoin? On retrouve l'empathie, et donc ça a des conséquences assez importantes. Alors, il nous reste combien de temps? Parce que je voudrais aussi qu'il y ait des places aux questions. J'ai mon portable là. T'inquiète pas, il est en mode avion. 11h03. Oui, alors je vais vous le montrer sur moi peut-être, parce que ça sera plus... j'aime pas trop le faire, mais bon... Pour vous expliquer comment ça se passe, je vais le faire. On n'aime jamais... Enfin, je suis pas exhibitionniste de mes émotions et ça, mais je voudrais que vous puissiez le comprendre. Donc, c'est assez simple. Et je vais vous le décrire en même temps. Donc, on a tout le temps, en fait, des charges émotionnelles en réserve. Je connais personne qui n'en a pas. Tout le monde en a plus ou moins refoulé, plus ou moins présent. Voilà. Donc, Greg va assister à... Je vais montrer comment on transmute une émotion. T'arrives pile au bon moment. Le truc qui est le plus dur pour moi à faire, c'est ça, c'est le faire. Voilà. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que je ne suis pas très exhibitionniste de montrer mes émotions. Bon, alors je vais le faire. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je tourne ma conscience vers l'intérieur. J'ai besoin de fermer les yeux pour ça. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et voilà, je me sens plutôt très heureux de faire ça. Donc je vais descendre dans mes profondeurs et je descends. C'est-à-dire que je tourne vraiment ma conscience vers l'intérieur. J'interroge ce que je sens dans mon corps. Et je laisse venir aussi éventuellement une émotion. Voilà, là, je sens de la peur. Et je sens immédiatement que ça affecte ma respiration. Donc je vous décris, hein, le processus est engagé. Du moment où je sens que j'ai une émotion, le processus naturel s'engage. Alors c'est très peu perceptible, mais moi je sens que ma respiration a changé, elle devient haletante. Et j'ai des tremblements dans la poitrine. Ils sont très légers, mais intérieurement, je les sens réellement, ils sont assez forts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'était une petite charge émotionnelle de peur. J'ai eu la première indication que j'avais, c'était des tremblements dans la poitrine. Alors, c'est difficile à voir, hein, puisque c'est très intérieur. Moi, je les sentais, puis vous avez vu, ma respiration est devenue un peu plus haletante. Ça, c'est des manifestations typiques de la peur. J'ai rien fait, hein, j'ai laissé faire, j'ai pas joué la comédie, hein, ça s'est fait tout seul. Et comme c'est pas une grosse charge, immédiatement, j'ai la détente qui est venue. Vous avez vu, ça a dû prendre, je sais pas, 10 secondes, j'ai pas calculé. Et dans les 10 secondes, l'émotion est transformée corporellement et psychiquement, et je me suis mis à bâiller. Signe que j'ai transformé l'émotion et que je suis détendu. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé dans ma vie, mais c'est une petite charge qui est transformée. Et si elle vient de mon passé, de quelque chose où j'ai extrêmement peur, dont je n'ai pas conscience, il faudra du temps pour que cette peur-là se dissipe. Vous voyez, et chaque fois que ça se présentera, ben, je m'occuperai d'accueillir cette émotion et de la laisser se transformer. Donc, voilà l'exposé que je voulais vous faire, que nous voulions vous faire sur la question émotionnelle. Alors, j'ai pas abordé plein d'aspects parce qu'il y a des choses parfois plus complexes. Donc, là, c'était, j'ai envie de dire, le niveau de base. Parce que je t'en prie, hein, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? La preuve, ils ont cassé la figure. Et donc, il y a plein d'autres aspects qui sont intéressants. Et puis, notamment, il y a des tas de liens à faire, évidemment, avec les questions alimentaires. Parce qu'il y a beaucoup de fois où on est dans des comportements alimentaires compulsifs. On mange parce qu'on veut calmer les émotions. On sent des émotions, on ne sait pas quoi en faire, donc on va manger du sucre, on va manger autre chose pour se calmer, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ses émotions. Alors chacun a des comportements différents, hein. Il y en a qui vont aller courir pendant 3 heures. Alors je ne dis pas que c'est mal, hein. Je dis que c'est les comportements qu'on a adoptés. Maintenant vous avez la connaissance, vous avez le droit de l'explorer, de lire davantage et puis d'expérimenter. Et souvent c'est pour ça qu'on va aller se réfugier dans tous les aliments qui sont pas cool pour nous. Mais parce que c'est la meilleure réaction, la meilleure solution qu'on a trouvée jusqu'à présent pour vivre au mieux. Mais du coup, ça a des effets pervers, c'est qu'au bout d'un moment, ça nous rend malade, et puis ça embrume un peu le cerveau aussi, hein, certains aliments. On le voit sur les enfants, par exemple, hein, les additifs alimentaires sur les enfants, c'est assez grave, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... Je dis, on n'explore pas tout, hein, on vous a fait quelque chose d'assez résumé, parce que la question alimentaire et la question émotionnelle nous paraissent réellement reliées. L'une va avec l'autre. L'une alimente l'autre. C'est-à-dire que si on mange tranquille, si on mange sain, on est plus cool aussi et on a moins de problèmes émotionnels. Mais si on s'occupe des émotions, on est plus à l'aise avec notre alimentation. Et après, il y a des personnes, vous les verrez, en apparence très heureuses, elles n'ont aucun problème, elles mangent n'importe quoi et elles n'ont pas de problème émotionnel. Avec l'habitude, vous verrez que souvent elles refoulent leurs émotions ou qu'elles ont un niveau intellectuel qui leur permet de rester souvent très tranquilles. Mais il n'empêche que parfois, un élément déstabilisant dans leur vie, je ne sais pas, un licenciement, un accident, fout tout en l'air, elles tombent rapidement malades. Ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà constaté. Moi, je l'ai observé il y a déjà fort longtemps. En apparence, les gens vont bien, et puis il suffit de quelque chose, et basculent dans une crise profonde. Et souvent parce que, à la fois, ils ont des mauvaises habitudes alimentaires, entre guillemets, mauvaises, des habitudes alimentaires intoxicantes, et puis ils ont une non-habitude de savoir ce qui se passe dans leur psychisme et dans leurs émotions. Voilà. Je m'arrête là, hein, je pourrais continuer longtemps, parce qu'il y a plein d'autres aspects à expliquer, mais je crois que ça serait important qu'on laisse la place à toutes les questions, et puis qu'on puisse échanger et discuter. Merci. Je reviens au schéma de départ. Voilà donc. Alors, on va juste reprendre pour le micro. Quelle est la meilleure façon de cuire les aliments?
Alors, c'est évidemment c'est la cuisson à vapeur douce. Non, alors, voilà, donc ce qu'il faut... Non, mais c'est vrai que c'est une question importante parce que la cocotte minute va monter à... Je ne sais même pas combien de degrés, mais bien largement au-dessus de 100.
Plus 90,
ouais. Moi, j'aurais dit 110, plus de 100 même. 110. Donc, ouais. Si vous voulez, là, c'est... Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, c'est vraiment la vapeur douce. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de déshydrater les aliments. Les passer en dessous de 45 degrés. Bon, c'est vrai que c'est un genre de séchoir où on déshydrate les aliments, où on arrive à avoir, des aliments. Enfin, on déshydrate les pommes, ça devient des pommes séchées, les betteraves rouges, tout ça, il y a plein de possibilités.
Mais la question, c'est aussi c'est une question de transition alimentaire. Donc là, les informations qu'on vous donne sont vérifiées scientifiquement maintenant. Hein. Il y a 30 ans, on se doutait que c'était ça, ou il y a 40 ans, maintenant, les scientifiques ont travaillé là-dessus. Tu as mis plein d'ouvrages, je ne sais pas où tu les as posés. Le dernier qu'on a noté, c'est celui de Dominique Guyot, qui a fait un travail remarquable, une thèse sur l'alimentation crue et instinctive, ou intuitive. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que le cuit est bien. Enfin, on sait que le cru est vraiment très bon pour la santé. La question, c'est comme dans une démarche de transition, comment on y va? Est-ce qu'on le veut déjà? Est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on a envie d'essayer? Et comme dans la transition, c'est souvent d'accepter d'y aller par étapes et tranquillement. Donc de tester, comme tu l'as proposé. Oui. D'essayer, de voir ce que ça fait. Si on sent des effets ou pas. De lire, de se renseigner, de vérifier. Voilà. Et puis d'y aller progressivement. Et parfois d'éviter la crise. C'est-à-dire que c'est un peu comme, là aussi, comme dans la transition. C'est-à-dire qu'on a conscience de ce qui est. On connaît les règles de son fonctionnement physiologique. On connaît les règles de l'écosystème mondial. On sait que si on fait des gaz à effet de serre, on modifie la planète. Alors on peut faire comme s'il n'y avait rien, attendre que ça craque de tous les côtés, ou dire, ok, je sais ce qu'il en est, est-ce que je m'en occupe quand je suis en bonne santé ou est-ce que j'attends d'être réellement malade? Et souvent, les gens les plus enclins à montrer les effets, c'est les gens extrêmement malades. Moi, j'ai vu plein de personnes qui avaient... Enfin, moi, j'ai arrêté le gluten parce que j'étais malade. Je suis allé un peu trop loin. Mais le fait de l'arrêter, je peux vous garantir que les effets, les rhumes, enfin, gluten et laitage, j'ai arrêté les rhumes en quelques mois. Donc c'est une réalité. Simplement, est-ce qu'on veut le faire quand on est en bonne santé et quand tout va bien? On veut expérimenter, se donner les moyens, comme avec la crise écologique majeure. On connaît les règles du fonctionnement planétaire et pourtant on continue à fonctionner de manière illogique. Donc si on décide d'être conscient tous collectivement, on peut le faire sur tous les aspects, au niveau de l'utilisation de tout, de nos voitures, de tout, hein, voilà.
Oui, puis donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de, à chaque repas, d'introduire des crudités. Déjà, pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Parce que, comme j'ai dit, vous arrivez facilement à satiété, vous allez vous rendre compte, et moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, vous allez vous faire une grosse assiette de cru, puis bon, alors vous avez acheté une autre courgette ou une pomme de terre, vous le faites cuire, et puis au moment de le manger, passer au cuit, vous n'avez plus envie. Mais je vous assure, votre corps, il vous dit non, je n'ai plus envie. Donc, c'est pour ça, je trouve que c'est extrêmement important, déjà, pour les personnes qui ne sont pas habituées, de commencer par chaque repas, par une crudité. Si, bon, comme j'ai dit, s'il y a un problème de supporter, ben, on passera à des jus de légumes, voilà, c'est à voir plus avec un thérapeute. Mais c'est vrai que c'est déjà une première démarche.
Qu'est-ce qu'on peut assaisonner, c'est
oui.
Oui,
huile d'olive. Après, oui, vous pouvez assaisonner huile d'olive, un peu de citron, etc.
C'est vrai que dans cette idée de transition, on peut y aller tout à fait par étapes.
Ouais,
donc, faut pas le faire de manière religieuse ou dogmatique, si on veut dire. Il faut y aller de manière tranquille. Mais on peut faire l'expérience. Moi, j'ai fait un repas complètement crudivore et instinctif l'année dernière, dans un cadre de stage, de formation. Et on était invités à sentir les aliments intuitivement qui nous donnaient envie. Et donc là, c'est intéressant de sentir, parce qu'on est très surpris. Il y avait une gamme de 40 aliments crus, et moi, j'ai salivé sur des algues. Donc voilà, c'était le réveillon. J'ai mangé que des algues au réveillon. Et donc, c'est ces expériences-là qui permettent de voir comment on fonctionne réellement. Et après, c'est ce que raconte Dominique Guyot, les gens qui sont arrivés à un certain endroit de leur expérimentation mangent les aliments crus, vraiment comme tu dis au départ, plus transformés du tout et plus mélangés du tout. Mais c'est pas, il ne faut pas vouloir arriver là tout de suite. L'intérêt, c'est de tester par étapes. Parce que sinon, on va être dégoûté, et puis on va être déçu de soi, et on ne sera pas heureux de l'expérience. Le plaisir de l'expérience est très important. Donc oui, c'est...
Comment est-ce qu'il faut assaisonner ?
Tu prends de l'huile d'olive, de l'huile de colza aussi, par rapport aux oméga.
Comment est-ce qu'elle doit être, cette huile ?
Première pression à froid, oui. Oui, les huiles qu'on utilise, c'est vrai que ça me paraît tellement évident que je ne le dis pas, mais bon, là, j'ai pas pu développer parce que c'était tellement dense. En fait, ce sont des huiles de première pression à froid. Parce que, bon, quand j'en ai parlé, des huiles, dès qu'elles sont chauffées, elles dégagent des produits toxiques. Donc, c'est très important, des huiles bio et de première pression à froid. Donc, alors, l'assaisonnement, colza est bien, il y a plusieurs huiles qui sont... L'huile d'olive aussi, très bonne aussi.
Moi, j'ai compris la notion de cuisson avec la vapeur douce. Qu'est-ce que c'est qu'une vapeur douce ? Parce qu'une vapeur, c'est une vapeur
de 100 degrés. Alors, il existe des casseroles qui sont vendues en bio où on peut régler la température. Il y a une possibilité de régler.
C'est un thermomètre sur le.
Voilà,
le
c'est un thermomètre.
Moi, j'en ai pas,
merci.
Je m'en suis jamais servi.
Oui, après.
Et du coup, tu mets sur le gaz au minimum et du coup, tu vois que ça reste à 45 degrés. Tu vois. Enfin, le thermomètre qui est sur le. Mais on peut. Enfin, voilà, la vapeur est normalement. Si c'est de la vapeur, tu vois, c'est à 100 degrés. Mais disons qu'il y a un panier, si tu veux. Tu as la vapeur dessous, c'est comme ça. Il y a la vapeur dessous, puis tu as un panier et ça sera à 45 degrés. Moi, je n'ai pas jamais utilisé. Donc
après, c'est vrai que...
Je ne réponds pas à ta question.
Quand on est dans une autre démarche, on dit, bon, on essaye de cuire le moins possible. Mais c'est vrai que si on doit cuire, c'est cette méthode qu'il faut conserver.
De manière globale, quand on a préparé l'exposé, si on avait voulu être plus complet... Il y a des oppositions, si vous voulez, où il y a des transitions qu'on a à faire. Il y a une transition vers le bio face au chimique, voilà. Il y a une transition du cuit vers le cru, et puis il y a une transition de l'animal vers le végétal. Et c'est pareil, si je pourrais ajouter la question des émotions, défoulement, refoulement, ou acceptation de soi. Ce sont des transitions dans tous les domaines. Mais on les fait en fonction de ce qu'on peut, au rythme où on peut aller, mais si on veut aller quelque part, c'est là.
En société, face à la famille...
Alors voilà, ça c'est la question la plus délicate.
Oui, tout à fait.
Pas de viande, bio, pas de laitage, pas de gluten, plutôt cru et plutôt vivant, les gens ils se décomposent.
Oui, je sais.
Oui. Moi par rapport à ça, c'est vrai, je vous ai parlé de ce 75%. C'est qu'à un moment donné, bon, on est invité chez quelqu'un, mis à part si on est végétarien, qu'on ne mange pas de viande ou vraiment qu'on ne supporte pas tel aliment, on peut aussi de temps en temps faire des exceptions. Parce que c'est clair, parce qu'on est tout de suite marginalisé.
c'est la difficulté principale, c'est la sociabilisation. Ouais. Simplement, peut-être qu'un jour, dans 20 ans ou 30 ans, tout le monde mangera. Imaginons une société idéale, peut-être qu'on aura compris que ces règles-là sont fondamentales. Et puis ça sera, ah, mais tu veux encore manger des trucs bizarres? Non, mais ça va. Oui, peut-être. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est une histoire de compromis avec chacun. Ce que vous voulez. Ouais, c'est variable. Hein. Juste, je voudrais répondre aussi à ça, parce que c'est vraiment la question la plus importante. On peut faire des écarts, effectivement. Souvent, on en ressent au bout d'un moment les effets directs, donc on n'a plus envie de les faire, simplement. Donc on dit, écoutez, je viens avec vous, je viens avec mes trucs. Je viens avec ce dont j'ai besoin, parce que ce qui m'importe, c'est de manger avec vous. Ça change aussi le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on s'invite pour se voir et pour parler, et pas parce que l'autre nous a fait un truc et qu'il va nous donner son truc à manger, un peu comme traditionnellement, la maman, on va donner à manger à ses enfants le truc qu'elle a préparé avec amour. Ça enlève l'idée que l'aliment préparé avec amour, c'est de l'amour, quoi. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on prépare un repas? Vous voyez ce que ça va remettre en cause toute notre société sur le et son rapport aux aliments.
Et ça se passe bien quand vous êtes invité.
Il y a un moment donné, c'était un peu comme toi. C'est est-ce que je veux vivre en bonne santé et faire ce que j'ai à faire sur Terre, ou est-ce que je tombe malade parce qu'il faut que je respecte les règles sociales des autres qui sont en train de me rendre malade? Donc le choix à un moment donné, il se fait parce qu'il faut vivre et en bonne santé et plus être malade. J'ai organisé un gros festival cet été de thérapie et il y avait une personne qui est venue qui avait une sclérose en plaques. Je veux dire, pour elle, la question elle se pose plus. Elle n'a rien à foutre du regard des autres. Elle est tellement malade que sa santé, elle est. Bah moi, je fais ma vie et j'en ai. Ce que les autres en pensent, on s'en fout. Dominique Guyot, c'est pareil. Il y a plein de gens qui se sont guéris de maladies en changeant. Déjà, en passant là. Et eux, ils ne se sont pas posés la question du social. On peut se poser la question du social quand on est encore à peu près en bonne santé et que on veut ça. Alors, il y avait une question. C'est dans l'ordre.
Je voulais parler justement de marginalisation. Totalement d'accord avec vous, parce que moi je vis la chose aussi, et on est très vite marginalisé, comme dit la dame là, et je trouve que justement de faire la concession d'aller manger chez les autres, et ça c'est prouvé dans mon expérience, hein, d'aller manger chez les autres et de rendre l'invitation et de cuisiner d'une autre manière, mm-hmm. et de partager et de montrer déjà ce sentiment de satiété après le repas, même si on mange cru. Et de montrer les bienfaits, et voilà, je trouve que c'est super important justement de ne pas couper cette socialisation, parce que si on veut que ça se transmette, il faut prendre soin de nos proches, parce que c'est souvent des proches chez qui on va manger.
Alors,
voilà, je trouve que j'en ai converti déjà pas mal en disant comme
oui.
ça,
je sais
déjà.
Alors, je vais. Il y a un mot convertir. Mais d'accord. Je réponds. Moi, je suis tout à fait d'accord hein, avec ce que vous faites. C'est plutôt mon attitude. Hein. Simplement, j'ai un mot sur lequel je m'arrête, c'est le mot convertir. C'est pas une religion, c'est une logique scientifique. Voilà, mais si on sort de l'idée de conversion, c'est plus cool pour tout le monde. C'est juste, il y a des règles de l'écosystème intérieur. Tu les as présentées avec grande clarté, vous les connaissez. On ne peut pas trop faire semblant qu'elles n'existent pas. Donc il n'y a rien à convertir, c'est comme dans la transition. Il y a aller vers autre chose, on a envie ou pas, à quel rythme, et chacun est libre de y aller ou pas. Mais moi, j'ai plutôt votre attitude.
La solution pratique aussi, je fais un peu comme la jeune femme, là. Et effectivement, on me demande des recettes, ou alors on a trouvé une solution entre copines. On ne sait pas toujours, on cède parfois aussi à la facilité, hein. mais ça s'appelle l'auberge espagnole. Chacun ramène effectivement son truc, mais on ne le mange pas pour soi, on l'amène, et les gens sont souvent piqués de curiosité, ou bien, comme c'est des décisions qu'on prend parfois spontanément, et ben voilà, finalement, tout le monde goûte à tout, parce qu'il n'y a pas excès non plus de nourriture, et ça se passe pas dans l'obligation de rendre la pareille,
exactement, bien sûr.
Mais ainsi de suite, et puis quand est-ce qu'on l'invite
ce qui est très important, c'est que ce que vous dites, bon, on le pratique au niveau de la transition, souvent, quand on partage les repas, et c'est là on s'est rendu compte que déjà, depuis que je suis dans la transition, il y a eu une sacrée évolution. Au départ, quand on parlait d'aliments sans gluten, on avait l'impression de tout bouleverser. Et puis tout d'un coup, maintenant, vous voyez, s'il y a des gâteaux,
sans gluten,
vegan, il y a des quiches vegan aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est en montrant l'exemple, je suis d'accord, c'est en montrant l'exemple et en amenant des bonnes choses que finalement on arrive à inciter à manger autrement. D'ailleurs, moi, si certaines personnes sont intéressées, je ferai avec grand plaisir des ateliers sur cette alimentation vivante. Parce que c'est vraiment quelque chose d'une grande richesse et ce n'est pas triste. Bon, il y a aussi, pour répondre, il y a aussi un intermédiaire, bon, moi j'ai parlé d'hydratation, il y a aussi un intermédiaire qu'on appelle de cuisine. Ça se développe vraiment très très vite parce qu'en fait, c'est, on ne cuit pas les aliments. Bon, c'est sûr qu'on les transforme parce qu'on va les broyer, mais on va travailler à base de matières premières comme la noix de cajou, les noix de Brésil, les amandes, tout un tas d'oléagineux. Et de légumes et de fruits, et on va faire des plats absolument savoureux. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cuisine. C'est encore l'intermédiaire qui permet, voilà, et qui permet d'avoir, de proposer, tout comme par exemple d'autres cultures vont te proposer dans le plat, c'est de proposer aussi d'autres aliments qui sont absolument très goûteux.
Après, il reste le gros problème de la cantine.
Ah, alors là, oui, ça c'est. Déjà, si.
Il ne faut pas désespérer, mais avoir beaucoup, beaucoup de patience. Et essayer de toujours en groupe.
Oui, Hélène, tu es un exemple de personne qui mange cru.
Comment ?
Tu es un exemple de personne qui mange cru depuis très longtemps.
Oui. Mais je crois qu'il ne faut, il faut surtout pas lever les bras parce que toutes ces institutions sont vraiment, vraiment coincées. Les protocoles, etc., etc. Donc il faut y aller avec beaucoup, beaucoup d'amour et de patience et comprendre qu'au fond, sont coincés. Ces gens-là sont coincés.
Ouais.
C'est tout comme l'hôpital, c'est les infirmières, etc.
C'est une catastrophe, c'est l'endroit où on veut soigner les gens et on mange le plus mal.
Et oui,
j'ai entendu une étude la semaine dernière, oui. 3,76 par personne et par jour pour les trois repas.
Ouais, vous voyez par exemple toutes ces structures, ce que tu dis, sont extrêmement cloisonnées parce que j'ai déjà proposé mes services parce que je trouve qu'il y aurait à faire en maison de retraite dans beaucoup de ça, mais en fait on vous répond non, nous on veut quelqu'un qui a un BTS diététique, c'est à dire qui rentre dans une norme. Donc c'est vrai.
Ils ont pas le même discours que vous, les diététiciens.
Ben, ils vont dire que le laitage c'est bien. Oui.
Voilà. Donc du coup on est, il y a une grande.
La diététique ne s'est pas mise à jour. Elle a du énormément.
C'est pour ça que.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous propose une réflexion. On se situe dans la prévention. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que on sait que ça peut guérir. Il y a des tas d'exemples, des tas de personnes qui témoignent de guérison parce qu'elles ont fait à la fois un travail sur les causes biopsychiques, sur leurs émotions, sur ce qui ne va pas dans leur vie, qui est refoulé. Moi, j'en ai rencontré qui ont guéri de cancer en faisant un travail là, et alors qu'elles faisaient déjà un travail ici. J'ai rencontré une femme qui a eu un cancer de l'utérus, cancer du foie, agricultrice en biodynamie, toute sa vie. On se dit, oh, bon, ben là, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais parce que ça se situe, c'est complexe. Et la complexité, elle se situe dans ce qu'on a essayé de résumer là. Mais déjà, si on arrive à jouer sur les causes alimentaires, on réduirait les maladies, et puis on réduirait l'impact aussi environnemental de notre agriculture.
En fait, il existe, donc je me suis un petit peu documentée, parce qu'il y a un centre aux États-Unis qui s'appelle Hippocrate, il y en a plusieurs. Et en France, les instituts d'alimentation vivante se développent. Il y en a à Nîmes, il y en a à Aurillac, et où vraiment ces personnes proposent une autre alimentation, et où elles sont prises en charge pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, avec tout un arsenal de oui. Soins de santé. C'est-à-dire que ça se développe, quoi.
Mais ta fortune est faite, parce que Hippocrate, c'est 5 000 euros la semaine. Hein.
Ah ouais.
Les cliniques, c'est pareil. Vous avez les cliniques garçons, il faut avoir les moyens. De
oui, c'est ça. Et l'idée de la transition, c'est aussi, c'est ce qu'on fait là, c'est donner la connaissance, des connaissances fines et précises au plus grand nombre et à tout le monde. Il n'y aurait pas d'un côté les riches qui peuvent se payer la clinique. On a des connaissances dans la vallée, on en est là, tous les deux la preuve. Hein. On vous la propose dans nos activités de thérapeute ou d'accompagnement, parce que c'est aussi là où on peut tous éviter d'aller vers des trucs absurdes, parce que c'est bien une clinique à 5 000 euros, mais Alors, il y aurait les riches en bonne santé et puis les autres qui meurent.
Ouais, non, ce que je voulais.
L'alimentation saine coûte beaucoup moins cher que l'alimentation normale.
Ce que je voulais dire, c'est que quelque chose qui progresse quand même en contrepartie de. Voilà, bon, c'est sûr qu'il y a toujours les problèmes de remboursement, etc. On est toujours confronté à ça.
Pour remonter, l'alimentation saine est moins chère si on peut produire ses propres légumes, déjà. Si on va tout acheter en magasin bio, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Quand on voit 8 euros et quelques kilos de haricots, il faut se le permettre aussi.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple...
Les gens qui n'ont pas de jardin, comment ils font ?
Oui, ben, il y a la formule du marché. Hein. Moi, j'ai acheté des haricots, par exemple, à 3,50 euros.
En bio,
oui, à Munster.
C'est-à-dire que c'est, si on décide d'aller vers ce changement d'alimentation avec ce que j'avais mis à la fin, si on va aller vers ça, et que c'était le thème de l'année dernière sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va, on bouleverse tout, si on commence à tout à changer et à aller vers ce truc-là, ça va suivre. C'est-à-dire que les maraîchers attendent qu'une chose, c'est de produire. Il y a plein de jeunes qui voudraient faire du maraîchage qui ne trouvent pas de terre. Bah, tout d'un coup, on va trouver les terres. Si, alors, c'est sûr que ça va être une transition, là, pour le coup. Parce que tous ceux qui font du laitage, ils vont râler. Ceux qui font de la viande, ils vont râler. Oui, mais bon, c'est la réalité. C'est ce qui se passe quand on en mange. Oui, Violaine ?
Si je peux me permettre une réflexion par rapport au niveau financier, bon, moi, j'ai des ressources qui sont faibles. Par contre, j'ai aucun problème médical. Donc, je n'ai pas d'alcool, je ne mange pas de viande et pas de fromage. C'est le gros du budget. Donc, en fait, même avec un budget qui est ridicule, j'arrive à tourner.
Et Violaine, c'est une celliste assez impressionnante. C'est-à-dire qu'elle a mis en place... Je me permets, hein. Elle utilise le sel, ce qui était présenté hier soir, comme un moyen de ressources locales. Donc, c'est aussi des alternatives. C'est sûr que ça ne résout pas tout, mais...
Oui.
De toute façon, c'est trois fois moins cher parce qu'on mange trois fois moins. Si vous cuisez les légumes, il faut trois fois plus. Donc déjà là, c'est une économie. Et puis, il ne faut pas éplucher. Il faut brosser les légumes, mais les vitamines sont sous la peau. Donc, on enlève juste ce qu'il faut. Et puis, comme c'est cru, on mange la peau. C'est le plus précieux.
Vas-y, on a... Martial a organisé depuis des années des sorties avec Nature avec la transition, des sorties de connaissances de plantes. C'est pas le seul à le faire, mais il le fait, il l'a fait très régulièrement. Et en fait, il y a un garde-manger assez impressionnant autour de nous, ne serait-ce que les orties. Voilà, on a des choses autour de nous, surtout dans une vallée.
Il faut trouver le coin, on ne sait pas...
Oui, mais en cherchant, on trouve. Hein. Non, je crois pas. Moi, je... Non, mais on en trouve des orties. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude, puisqu'on n'a pas l'idée que ça peut se consommer. Donc on n'en cherche pas, oui. C'est... Au début, je pensais aussi qu'il n'y en avait pas. Puis après, on commence à les repérer, on en voit partout. Mais c'est sûr qu'on a des enjeux qui sont majeurs, puisque globalement, notre planète et puis nos régions sont de plus en plus polluées par le chimique. Donc c'est des questions très, très importantes. Et c'est pour ça que ça me paraît vraiment très lié à la question émotionnelle, parce que c'est la peur qui nous anime. Si elle nous handicape, elle nous empêche de réfléchir, on n'agit plus de manière intelligente. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Non, on commence à faire n'importe quoi, ou on devient fanatique, et on va un peu n'importe où. Alors, il y a une feuille qui circule si vous voulez indiquer une adresse mail ou un moyen, ou si vous voulez suivre nos informations. Parce que moi, j'organiserai, et Martine aussi, on organise régulièrement des stages ou des activités sur les deux domaines qui nous intéressent.
Ce que je trouve intéressant aussi, quand on s'imagine qu'on connaît davantage les plantes qu'on peut consommer, c'est justement ce que tu as dit, c'est l'idée de se promener dans un garde-manger. Mm-hmm. Ça, je pense que ça apaise une peur, la peur première de manquer de nourriture, etc.
Est-ce qu'on pourrait être au courant des sorties que Marcel organise pour la connaissance des plantes? Comment on peut être au courant de ce que...
C'est souvent par la transition. Alors il y a une autre solution. Si tu as envie qu'il y ait une sortie qui soit organisée, après la conférence, tu vas voir Martial et tu dis quand est-ce que tu peux la faire.
Voilà, là, moi je lance tout de suite.
Tu organises la sortie, tu vois avec moi, je te donne les contacts où tu vois Fabienne. C'est diffusé dans la transition et si Martial est d'accord, ça a lieu, mais je ne veux pas lui.
Ok.
Tu vois
avec en tout cas, moi je suis intéressée. Hein? Qui est encore?
Si vous vous inscrivez à la transition, vous avez de toute façon la formation.
Ouais, okay. C'est bon, là, le groupe est fait, il y a déjà 10 personnes. Désolé, il ne fallait pas que tu viennes. C'était un piège imprévu. Voilà, si vous avez d'autres questions. Oui.
Par rapport aux émotions, vous avez parlé de la peur, laisser venir des tremblements, et pour d'autres émotions
C'est variable. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on a de la colère, on va sentir beaucoup de chaleur dans les mains, par exemple. Des afflux de chaleur très forts. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'essaie de penser à moi, puisque j'ai vu chez les gens. La respiration qui s'accélère. La peur et l'angoisse, c'est pareil. Donc on peut aussi avoir carrément l'arrêt respiratoire. Quand on plonge dans la peur ou la tristesse, j'ai vu beaucoup de personnes complètement s'arrêter de respirer. Il faut une espèce d'apnée, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, c'est ce qui est au bout de la peur. C'est une espèce de mort, tout s'arrête. Il y a un vrai arrêt respiratoire, ça peut durer quelques minutes, quelques secondes à une minute. Tout d'un coup, clac, ça repart, et la personne dit « c'est fini, ça va mieux ». Voilà, bon, d'accord, ok. J'ai répondu ?
Oui.
Alors moi, j'organise des journées de formation sur l'alchimie émotionnelle, parce que j'ai observé que c'est plus efficace de le faire en groupe, parce que quand je le fais faire aux personnes seules, c'est passionnant, mais c'est beaucoup de travail pour la personne, et en groupe, elles ont le temps de se reposer et de voir ce qui se passe chez les autres. Et donc elles apprennent en regardant ce qu'il y a. C'est beaucoup plus riche. Parce que quand je le fais en séance individuelle, c'est plus confortable, mais plus... c'est plus intense. Hein. Je suis la personne, mais elle n'a pas du coup le recul, elle ne voit pas ce qui se passe chez les autres. Enfin, tu vas déjà essayer, tu vois de quoi je parle. Il y a quelques-uns qui connaissent mon travail, qui ont déjà expérimenté. Si vous avez d'autres questions...
J'aimerais savoir les céréales. Comment vous les croquez,
la quinoa, vous pouvez la cuire,
oui.
Mais les graines, quand je parle des graines germées, par exemple,
ça, c'est autre chose.
Soit vous les faites germer, oui. Soit vous les faites cuire.
Donc il faut les cuire.
La quinoa, oui, il faut la cuire.
Ça marche.
Oui. Ah oui, tout à fait. Et sinon, vous les faites germer. Hein, est-ce que tout le monde connaît le principe de la germination? Mm-hmm. C'est simple. Hein.
Non.
Non. Qui ne connaît pas? Qui...
C'est pas toujours facile. Il y a des graines comme cilagineuses.
Après, c'est vrai qu'il y a certaines graines qui sont plus faciles que d'autres. La lentille, je disais, la lentille, elle est très simple à...
L'antille verte.
L'alfalfa, c'est facile.
L'alfalfa, oui.
Le fenugrec, c'est facile. Et puis ça peut même se commander par ce paquet de 5 kilos.
Par paquet de 5 kilos,
mm-hmm. J'ai trouvé un site internet, on commande. Ouais. Au lieu d'acheter les petits sachets qui valent, ça vaut, je sais pas, 10 fois moins cher. Hein. Mm-hmm. Vous mettez à deux, vous avez votre dose pour un long moment. Hein. Mm-hmm. Ça résout la question financière. Oui.
Les moyens de faire germiner sans utiliser.
Oui, donc il y a quand même des personnes qui voulaient savoir comment on fait germer.
Oui, est-ce qu'il faut.
Non. C'est... Moi, je réponds.
Alors, vendu dans les commerces assez cher, là. J'ai des appareils pour faire
germer. Non, vous pouvez faire vous-même, c'est simple. Bon, je prends par exemple l'exemple de la lentille. la lentille, vous allez en mettre une certaine quantité. Vous allez la mettre le soir et la recouvrir d'eau. Mmh. Le lendemain, vous allez rincer. Et là, vous allez l'étaler. Moi, j'ai besoin de bocal. Je prends juste un plat qui a un petit peu du rebord. Vous étalez, vous rincez, vous étalez la lentille. Et il faut qu'elle soit... quand ça pourrit, c'est qu'il y a... Souvent, il y a trop d'eau. Donc, il faut trouver... Alors, des fois, on va tâtonner un peu les 2-3 premiers jours. Il faut trouver juste la quantité qu'il faut. Que ce soit légèrement humidifié sans qu'il y ait trop d'eau. Donc là, vous allez... après avoir rincé, vous mettez votre lentille dans un plat. Et vous la mettez à l'abri de la lumière. Vous mettre un chiffon dessus. Donc là, vous rincez le matin, vous rincez le soir. Deux fois par jour, vous rincez. Donc, le deuxième jour, vous refaites la même chose. Et déjà, le deuxième jour, vous allez voir un petit germe qui apparaît. Alors, la lentille, elle peut se consommer au deuxième ou troisième jour. Ça dépend si on veut un tout petit ou un germe un peu plus grand. Ensuite, une fois que cette germination est terminée, qu'on estime que le germe est assez grand, on peut les croquer nature comme ça. Donc, on va les mettre dans des salades. Il y a diverses préparations par rapport à... aux lentilles, on peut même les manger comme ça, nature. Et ensuite, après, si on ne les mange pas tout de suite, l'idéal c'est quand même de les manger fraîches et tout de suite, il y a la possibilité du frigo. Bon, je sais bien que c'est d'un endroit frais où on peut les conserver 2-3 jours. Et là, il faut rincer au moins une fois par jour.
Alors, il y a une solution technique intermédiaire, c'est, moi j'ai refait les bocaux là, que les Allemands vendent avec un couvercle. J'ai pris un couvercle en plastique d'un bocal, j'ai troué le couvercle. J'ai pris du tulle, un truc en. Voilà, je mets le tulle, je ferme, je mets les graines dedans dans l'eau et je rince tous les jours.
C'est plus facile.
Ça m'a coûté. Ouais. Donc c'est pas un problème technique, hein, c'est juste une habitude.
Il faut savoir par exemple la graine de tournesol, une graine qui germe au bout de 4 heures déjà. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà la mettre à tremper le matin et elle est utilisable dans la journée. Mais celle-là, par contre, elle ne germe pas comme la lentille. Il ne va pas y avoir le petit germe. Voilà. Il faut l'utiliser tout de suite parce qu'elle s'oxyde. Mais vous faites pour la journée, quoi. Voilà, maximum.
Je voulais savoir ce que vous pensez de l'épeautre.
Alors, l'épeautre est une céréale. Comme l'épeautre, les petites épeautres contiennent aussi du gluten. Ouais.
Il y a deux. Il y a ce qu'en allemand on appelle Dinkel, qui est l'épeautre. Il y a le petit épeautre qui vient plutôt du sud de la France, qui poussait sur les terres très pauvres. Ouais. Qui était la céréale traditionnelle. Et donc maintenant, on trouve beaucoup d'épeautres. Hein, et puis, le petit épeautre arrive, mais comme c'est une céréale à peu de rendement, elle vaut beaucoup plus cher. Ouais. C'est un coup. Ouais. Mais il y a beaucoup moins de gluten dans le petit épeautre.
Oui, il y en a moins.
Après, ça dépend de où vous en êtes et où vous voulez aller.
Moi, j'utilise l'épeautre, la farine, le riz d'épeautre, le couscous, tout. Je mange beaucoup d'épeautre.
Je ne sais pas quelle heure il est, mais si vous avez encore des questions, on a jusqu'à midi.
Midi moins quart.
Est-ce qu'il y a encore une question ou on en reste là? Bon, bah alors il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et puis bon appétit. Je sais qu'ils vont aller manger.